Actu SF, les podcasts.
Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à cette interro surprise sur un sujet qui va bien avec cette journée spéciale du 1er novembre, donc la mort. Donc c'est vraiment une interro surprise pour moi, parce que j'avais initialement pas été prévu pour animer cette heure, donc c'est un challenge que j'ai décidé d'accepter. Je vais d'abord me présenter très brièvement. Donc je suis Karim Sitayeb, je suis de formation biologiste. Je travaille à Nantes à l'Institut du Thorax depuis 2012 et donc peut-être que certains d'entre vous ont pu me voir depuis le début de cette session des Utopiales. Je travaille sur l'utilisation des cellules souches pluripotentes induites, donc ce sont les cellules iPS, pour essayer de modéliser des maladies du foie et notamment tout ce qui est lié au métabolisme du cholestérol et une maladie en particulier qui est l'hypercholestérolémie. Alors évidemment que j'ai un bagage scientifique en biologie, donc j'ai quelques connaissances sur la biologie cellulaire, sur l'évolution des organismes, sur le recyclage des différents éléments qui participent à la vie et donc au processus qui est impliqué dans ce cycle qui est la mort. Alors l'idée ici, c'est pas que je vous fasse un speech de une heure sur la mort, mais plutôt qu'il y ait une interaction entre vous et moi. Donc c'est pour ça que j'ai mis les micros ici. L'idée, en fait, c'est que vous qu'on interagisse à travers des questions et puis je puisse étayer si je peux sur le sujet. Je ne suis pas omniscient, donc je ne vais pas avoir toutes les réponses. Peut-être que d'autres personnes dans la salle auront des réponses et je serai ravi de pouvoir l'accueillir pour pouvoir en discuter. Et ce que je vous propose, en fait, ce serait de, si vous voulez poser une question pour qu'on puisse commencer cette interaction, de venir ici. J'ai mis les micros ici du côté de la salle pour que on puisse parler ensemble et discuter sur le sujet. Donc si quelqu'un a une question et veut commencer, n'hésitez pas. Il y a un micro au fond pour les personnes qui sont plus dans le fond. C'est un peu atypique. Ah, c'est tellement vaste.
À quel moment on peut certifier que quelqu'un est mort, pour commencer par une question classique?
C'est... un sujet, je pense, un peu de controverse. Déjà, qu'est-ce que la mort d'un individu, donc par quelqu'un, vous voulez dire une personne, hein, qui, évidemment, il y a, on peut discerner deux types d'états. Donc, il y a la mort cérébrale pour laquelle la personne est là physiquement, n'a plus de réponse, n'interagit plus avec son environnement, mais toute la machinerie est présente pour assurer la survie du corps, des différents organes, de l'homéostasie qui permet de l'échange entre ces organes. Et voilà. Ensuite, on a la mort physique liée donc à l'arrêt, donc qui commence en fait par l'arrêt de cette circulation entre les différents organes et donc l'arrêt en fait du cœur. Le cœur participant au pompage du sang et donc à l'échange entre ces différents organes des nutriments, de l'oxygène, d'hormones, de messagers qui vont permettre d'assurer une cohésion de l'organisme. Une fois qu'on perd cette communication, en fait, c'est vraiment le système circulatoire sert comme un élément de communication entre tous ces différents partenaires. Eh bien, chacun va à sa façon commencer à se déliter et le premier effet de ça, c'est l'absence d'oxygène. Donc après, est-ce à partir de quand on considère une personne est morte? Je pense qu'il y a un débat plutôt philosophique sur qu'est-ce que la vie? Est-ce que la vie, c'est un corps avec un cœur qui bat et des organes qui sont qui se sont en équilibre balancé entre eux, ou est-ce qu'il y a aussi la conscience qui permet de l'interaction avec les autres membres de l'espèce et une cohésion sociale? C'est difficile à dire, en fait. Je n'aurais pas d'avis tranché sur l'un ou l'autre. Une question là-bas.
Mais du coup, quand on est dans le premier cas et que le cerveau ne fonctionne plus, est-ce qu'à terme, ça n'entraîne pas forcément que le cœur ne fonctionne plus, puis que du coup, plus rien ne fonctionne, puis du coup, on est mort?
Et pas toujours. En fait, le cerveau est en charge de plusieurs processus. La plupart des processus liés au maintien de l'homéostasie au niveau du corps sont autonomes et ne sont pas dépendants de nos consciences. Donc, nos consciences on a l'effet psychosomatique, on peut influencer l'équilibre qu'il y a entre les différents organes et le maintien de la cohésion de notre corps, mais il y a une forme complètement autonome qui fait qu'on n'a pas besoin de penser à, par exemple, respirer, bander tel muscle pour pouvoir marcher, ou faire en sorte qu'on absorbe tel aliment au niveau intestinal. Donc ces choses-là se font automatiquement. Donc le cerveau n'est pas nécessaire, en fait, pour orchestrer tout ça.
C'est juste pour apporter une précision à la question. Effectivement, en état de mort cérébrale, les gens ne respirent plus. Immanquablement, sauf à avoir une aide mécanique, la mort est inéluctable.
D'accord. Donc du coup, c'est peut-être le fait de ne pas être omniscient, mais effectivement, donc sur le côté... automatisation de la respiration, mais est-ce que c'est le cas dans toutes les morts cérébrales, ou parce qu'il y a différentes lésions au niveau cérébral qui peuvent avoir différents impacts, j'imagine, au niveau du maintien automatique des différentes fonctions.
La mort cérébrale, c'est l'absence de circulation au niveau du cerveau, et donc notamment au niveau du cerveau assez profond, au niveau du bulbe qui contrôle la respiration, qui n'étant plus vascularisé, plus oxygéné, ne fonctionne plus. Et donc, les gens ne respirent plus. D'accord. C'est dans cette situation qu'on est à même de pouvoir rentrer dans un processus de don d'organes et de pouvoir prélever les organes.
Ouais, je ne savais pas qu'il y avait systématiquement une assistance respiratoire quand on est en état de mort cérébrale.
Parce que justement... Un des moyens de détecter la mort cérébrale, alors qui n'est pas utilisé en France, mais qui est utilisé dans d'autres pays, c'est l'arrêt de la respiration. Il y a des tests particuliers qui font... On arrête les respirateurs qui maintiennent l'oxygénation des personnes et on fait des tests. Et s'il n'y a pas eu de reprise de la respiration pendant un certain temps... On considère qu'il y a la personne est en mort cérébrale, et donc qu'il n'y a plus de circulation. Après, il peut y avoir des lésions cérébrales avec des gens qui continuent à respirer, mais ce n'est pas une mort cérébrale, c'est des dégâts cérébraux.
Et du coup, ça peut paraître bête, mais la mort cérébrale, c'est irréversible. La personne ne peut pas retrouver...
Oui, du moment où il y a une perte d'oxygénation, les cellules vont rapidement... L'oxygène est nécessaire pour la survie cellulaire. Et en absence d'oxygène, on va avoir différents processus qui vont se mettre en place pour éliminer les cellules qui ne sont plus... Enfin, les cellules elles-mêmes vont accumuler des éléments qui vont être toxiques pour la cellule. Et la cellule, pour protéger son environnement, va rentrer dans un processus. Alors, il va y avoir deux processus. Il y a un processus qu'on appelle l'apoptose, qui est une mort cellulaire programmée. Donc, c'est un processus qui va essayer de préserver le tissu environnant. Et donc tout est empaqueté pour éviter par exemple le relargage d'enzymes qui pourrait avoir des effets sur les cellules avoisinantes. Et dans le cas d'une absence d'oxygène et de mort cérébrale, on va avoir plutôt un effet de nécrose. Et donc là, on a vraiment une mort cellulaire brutale avec non contrôlée, et donc un relargage d'éléments qui va avoir un effet sur l'environnement cellulaire. Et donc ça va être une espèce de cascade de chaîne de réaction qui va complètement détruire tout un pan du tissu cérébral. Et là, c'est pas le cerveau n'étant pas capable de se régénérer comme d'autres organes, on peut pas retrouver les fonctions perdues.
Mais du coup, les personnes qui sont déclarées en mort cérébrale, il n'y a aucun espoir de réveil. Donc en France, ça se passe comment juridiquement, et on les laisse brancher
Je crois que c'est la famille qui... alors je sais pas, là, ça me dépasse un peu. Mais il me semble que la famille proche a un droit sur le maintien ou pas. Je ne sais pas quelle autorité gère ce type de problème. Et voilà.
Si je me trompe pas, je crois que c'est la famille qui a le droit de choisir quand, quelle heure, quelle date ils débrancheront leurs proches.
Et après, don d'organe, oui, tout à fait. Ben, il y a le choix de la personne aussi, parce que si la personne a normalement rempli une carte pour décider si ses organes sont donnés pour la science ou pour même la science en recherche. Ou et si, en absence de carte, je ne sais pas du tout en fait si la famille a le droit de décider ou pas. Apparemment, oui. Oui.
Si je peux me permettre maintenant. Ça va dire. Alors, si je peux me permettre, maintenant, en France, c'est devenu, la loi est passée, c'est devenu l'inverse. C'est-à-dire que maintenant, il ne faut pas une carte de donneur d'organes, il faut une carte de refuse, qui certifie comme quoi on refuse de donner nos organes. Donc, passivement, maintenant, si on n'a pas de carte, nos organes seront pris et utilisés. Maintenant que j'ai le micro dans la main, j'avais une autre question. Pardon ? Je ne pense pas que la famille ait son mot à dire à ce moment-là, mais là, j'en suis pas sûr du tout. Oui, j'avais une autre question, c'est pour savoir, est-ce qu'on parle de la mort uniquement physique, ou est-ce qu'on peut parler de l'attrait moral de la mort aussi ?
Alors là, c'est là où ça me dépasse un peu, parce que moi, j'ai le côté vraiment biologique, du côté de la mort, sur les processus appliqués, que ce soit la mort à l'échelle cellulaire, plus largement à l'échelle de l'organisme, et puis après les effets sur l'écosystème environnant, mais après sur le côté conscience, c'est très très difficile. Je ne sais pas comment.
D'accord, je pense que je vais garder ma question pour un autre moment. Alors, merci.
Du coup, j'avais une question par rapport au niveau cellulaire. En fait, comment on distingue une cellule vivante d'une cellule morte ?
Alors il y a des marqueurs. Donc ce qu'on appelle des marqueurs, c'est que les cellules qui vont rentrer dans un processus de mort cellulaire vont avoir des types de protéines particuliers ou un arrangement moléculaire très spécifique. Alors par exemple pour l'apoptose, donc qui est la mort cellulaire programmée, on va avoir des séquences d'événements que maintenant on connaît très bien. Et parmi eux, on va avoir par exemple au niveau de la cellule, en fait, il faut imaginer ça comme un sac qui est entouré par des lipides. Sous les lipides, on va avoir une espèce de squelette de protéines. Et ce squelette de protéines va permettre de maintenir la cellule et puis l'interaction avec les cellules avoisinantes. Au niveau des lipides, quand la cellule rentre en apoptose, on va avoir un switch de certains lipides qui vont, plutôt que de regarder vers l'intérieur de la cellule, vont regarder vers l'extérieur. Ça peut être reconnu par d'autres cellules qui se disent « Ah, cette cellule rentre en apoptose, on va l'aider à rentrer en apoptose et dégager l'espace ». En parallèle de ça, il va y avoir l'ADN. Donc l'ADN qui, lui, est porteur de l'information génétique. Il est confiné dans ce qu'on appelle le noyau. Et il y a tout un processus moléculaire avec notamment des enzymes qui vont couper très spécifiquement l'ADN et qui vont l'impacter dans des petites structures qui vont ensuite être utilisables par les autres cellules comme étant un produit de dégradation, comme des aliments en fait. Et donc tout ça, en fait, on peut donc les cellules peuvent le détecter quand au niveau de la circulation. Et puis nous, si on travaille sur du tissu avec des phénomènes d'apoptose, on sait quelle protéine va être présente au moment de l'apoptose, et on peut utiliser des techniques qui permettent de détecter spécifiquement cette protéine, d'avoir ce moyen de détection combiné avec un marqueur fluorescent qu'on va pouvoir détecter ensuite sur nos cellules en culture ou dans le tissu.
Il y a deux questions. Et puis il y a une. Ouais. Oui. Alors du coup, j'aurais deux questions qui me sont venues. La première, c'est est-ce qu'on a eu des nouvelles informations sur les EMI, les expériences de mort imminente ? Est-ce qu'on sait si c'est une hallucination, s'il y a quelque chose d'autre derrière ? Et l'autre, c'est est-ce qu'on a des pistes pour l'avenir pour lutter contre le vieillissement et donc accroître la longévité à long terme, pas seulement gratter un ou deux ans.
Ouais. Alors, donc pour la première question, je suis pas suffisamment qualifié pour avoir une réponse claire, en dehors du fait que ce qui semble être une EMI serait peut-être lié à une activité cérébrale résiduelle au moment de cet état un peu particulier et donc qui est interprété par le cerveau et ensuite en revenant à la vie on a ce souvenir de ce moment, mais bon, est-ce que c'est le reflet de quelque chose d'autre, je ne sais pas. Alors la longévité, c'est une grande question, hein. En fait, c'est une double question. Enfin, c'est une double question. Il y a double problème. Il y a la longévité, vieillir plus longtemps et donc être de plus en plus vieux, ou essayer de préserver une forme de jeunesse. Ouais. Donc ça, en fait, bon, il y a, de toute façon, on le voit avec l'évolution de nos sociétés et les progrès qu'ont pu faire la médecine et la recherche avec un effet direct sur l'allongement de la vie. Maintenant, on travaille sur... Donc, il y a... Mon sujet en particulier utilise un outil qui est les cellules souches pluripotentes induites. Donc, ce phénomène, en fait, qui est assez particulier, donc c'est un dogme en biologie qui a été cassé il y a une dizaine d'années. Donc au moment de la fécondation, quand on a le spermatozoïde qui rencontre l'ovocyte, on a une cellule souche qui va être à la base de tout l'organisme. Et cette cellule va se diviser en plusieurs cellules souches qui vont se spécialiser en fonction de l'environnement pour donner des cellules musculaires, des cellules cœur, foie. Et le dogme était que ces cellules, une fois spécialisées, ne pouvaient plus revenir en arrière. Elles avaient leur fonction. Et donc maintenant, on sait comment les faire revenir en arrière. Donc il y a cet aspect de... Enfin, quand ça a été publié chez l'homme en 2007, ça a été tout de suite la fontaine de jouvence. On peut revenir à l'état de cellules embryonnaires et donc on peut éventuellement acquérir la jeunesse éternelle. Donc c'est loin d'être le cas. Mais ça nous permet, nous, en tant que scientifiques, de pouvoir récupérer des cellules de quelqu'un, les avoir dans le laboratoire et de les faire devenir cellules de cœur, par exemple, si on veut étudier maladie cardiaque avec un effet génétique. On sait que si on prend des... donc, par exemple, la sénescence est liée au niveau de l'ADN notamment, à une perte des extrémités des chromosomes, donc au niveau des télomères. Et donc on peut, et donc c'est un phénomène qui n'est pas réversible, mais on a pu réaliser que lorsqu'on reprogramme des cellules somatiques, donc des cellules de peau ou autres, en cellules souches, on régénère ces télomères. Et du coup, ça a été fait avec des personnes centenaires en France, dans la région de Nice, je crois, où un groupe a montré que des cellules de centenaires après reprogrammation régénéraient complètement leur télomère et donc avaient le potentiel des cellules d'un nouveau-né. Et donc là, il y a des mécanismes probablement qui pourraient permettre de trouver des cibles pour essayer de prévenir la perte de ces extrémités de télomère et peut-être à ses naissances. Mais encore une fois, ça c'est théorique. Oui. Voilà, c'est la télomérase, c'est une enzyme qui est impliquée pendant la division cellulaire et qui va en fait avoir un effet sur l'extrémité des télomères et qui va au fur et à mesure diminuer la taille de ces télomères et ça va avoir un effet sur la stabilité de la cellule. Lorsque les télomères sont trop courts, la cellule meurt. Rapporteuse d'ailleurs.
J'avais une question un peu en rapport avec celle qui vient d'être posée. C'est par rapport à, je sais plus si c'est en Chine ou au Japon, il y a une personne qui s'est fait cryogéniser parce qu'elle avait un cancer. Et du coup, je me demandais si c'était scientifiquement ou biologiquement imaginable d'utiliser la cryogénisation pour renaître à un moment où on aura trouvé une solution à certains problèmes.
Ouais. Alors c'est au Japon ça a été fait aussi aux États-Unis. Il y a plusieurs personnes fortunées qui se sont fait cryogéniser. Alors c'est un peu délicat parce que le problème de la congélation, c'est que on l'avait évoqué cet après-midi, l'eau lorsqu'on passe d'un état liquide à l'état solide va changer de forme et donc va occuper un volume plus important et en fait à l'échelle cellulaire ça va exploser la cellule. Donc il faut trouver des traitements qui permettent soit de remplacer une partie de l'eau par des éléments qui ne bougent pas lorsqu'on passe à des températures basses ou une technique de congélation qui évite que ce changement de forme impacte l'intégrité de la cellule. Donc il y a des gens qui sont fait congeler. On peut congeler des cellules. Donc là, on utilise un composé spécial qui remplace justement l'eau. Et on peut les remettre. Donc on peut les garder à -150 pendant plusieurs mois ou années. Et ensuite, on peut les faire revenir en culture au laboratoire et elles vont revenir à la vie entre guillemets. Et puis reprendre le cours de leur vie là où on l'a arrêté. Dans un organisme complexe comme l'être humain ou même d'autres animaux, je pense que c'est compliqué. Et je ne suis pas sûr que... déjà, est-ce que les techniques actuelles pour cryogéniser une personne n'ont pas un effet juste au niveau cérébral pour pouvoir garder l'intégrité de la conscience de la personne ? Aucune idée. Je ne pense pas qu'il y ait personne qui ait été congelé et ranimé jusqu'à maintenant. Donc les gens espèrent pouvoir faire confiance au futur pour pouvoir revenir à la vie, mais ça se trouve les conditions de base n'étaient pas suffisantes pour pouvoir le faire. Donc ça se fait, mais les risques derrière sont complètement, je pense que c'est plutôt un pari en fait. Après ce qui peut être utile éventuellement, c'est si cette personne a un type de cancer et que finalement on sait qu'on pourra pas la réanimer, pouvoir étudier ce type de cancer en particulier ou utiliser ces cellules pour en faire des cellules souches et étudier l'aspect génétique de cette maladie. Mais après, pour faire revenir la personne, j'ai des grands doutes.
Ça tombe bien, je voulais rebondir sur l'étude. Je suis là.
Oui.
Sur l'étude des cellules souches, je pensais à une sorte de cellule qui est immortelle, les cellules de la souche est là. Et savoir comment, du coup, elle fonctionnait et comment on pouvait utiliser ses propriétés sans que ce soit délétère pour nous.
Alors, en biologie, en fait, on a plusieurs modèles cellulaires. Et donc, on a ce qu'on appelle, donc là, on est à l'inverse de la mort, on a des cellules dites immortalisées. Alors en fait, on a deux types de cellules de ce type-là. Soit on a des cellules tumorales, donc c'est des cellules qui en fait ont un bagage génétique qui est complètement qui est très loin du bagage génétique d'une cellule normale. On va avoir des duplications de chromosomes ou de parties d'ADN qui vont permettre le maintien de la cellule en culture, mais en fait, c'est plus une cellule normale. Donc même, en fait, en tant que modèle d'étude, c'est plus pertinent maintenant. Ça l'était avant parce qu'on n'avait pas, on n'avait rien d'autre. Maintenant, on commence à avoir des modèles plus pertinents, donc c'est plus trop... Et on a ces cellules immortalisées qui, en fait... C'est un processus où on va sélectionner les cellules en culture qui vont garder cet aspect de prolifération, de multiplication et d'immortalité, mais au détriment de leur instabilité, de leur stabilité génomique. Donc, mais c'est une question très intéressante. Il y a eu un livre sur la donneuse des cellules HLA, qui est une afro-américaine dans les années 70. Oui.
Moi, c'était pour revenir, c'est un peu lié au cancer justement et sur l'apoptose, puisque afin de ce que j'ai lu, les cellules cancéreuses sont des cellules qui sont incapables de réaliser leur apoptose. Donc, bon, là, c'est plus sur la science-fiction, mais à quel point est-ce qu'on peut pas se dire que le zombie, c'est un cancéreux infini? Et aussi sur la cryogénisation, sur le tardigrade, qui peut subir une congélation et revenir après, donc ouais. Il n'y a pas le problème des cristaux de glace qui font éclater les cellules.
Donc je vais commencer avec le tardigrade. Donc effectivement, il y avait eu une exposition l'année dernière au Muséum d'Histoire Naturelle sur les modèles animaux étudiés pour leur faculté d'adaptation à des environnements extrêmes. Donc le tardigrade est un organisme qui fait l'objet de recherches à cause de ça, et spécifiquement sa capacité à... En fait, je pense pas que ce soit à côté de cryogénie, c'est vraiment la résistance au froid et se mettre dans un état particulier pour passer cette période et ensuite revenir à un état normal. Donc il y a tout un côté métabolique, mais là, du coup, ça fait beaucoup plus de sens, en fait. Il y a vraiment un aspect intégré de sa réponse à l'environnement. Donc là, il y a de la recherche là-dessus. Moi, personnellement, je peux pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas toutes les infos, mais il y a du monde qui travaille dessus et c'est probablement ce type d'axe de recherche qui va permettre de trouver des moyens pour peut-être accéder à la cryogénisation ou peut-être pour des voyages stellaires. Alors pour les zombies, c'est compliqué parce que les zombies, il y a plusieurs... Donc les zombies, c'est des morts vivants. Donc en fait, c'est un peu un cas de mort cérébrale avec un organisme vivant, mais qui est mobile et qui va vouloir subvenir à ses besoins de façon très primaire, en essayant de manger l'autre, et des fois plus particulièrement le cerveau. Donc après, en fait, je ne sais pas s'il y a eu, j'ai pas de recul sur ça, s'il y a eu des œuvres dans la science-fiction où les gens essayent d'étudier un peu la physiologie du zombie. Est-ce que le zombie se dégrade au fur et à mesure? Est-ce que il perd des membres ou il se décompose? Ou est-ce que le zombie probablement qu'il ne respire pas? Donc s'il ne respire pas, il y a une décomposition qui se met en place. Donc combien de temps un zombie va se maintenir? Donc, si le zombie ne respire pas, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui le maintient intègre. Donc, ce serait intéressant de creuser ça du point de vue un peu scientifique. Après, si le zombie respire, qu'est-ce que ça veut dire sur son état de mort ou vivant? Non, le zombie, c'est un élément un peu particulier dans le cadre de la mort.
Bonjour. Oui. On est tous en train de mourir, de toute façon, plus ou moins brève échéance. Tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait moyen de, en regardant une cellule, de savoir si elle était en train de mourir ou pas. Oui. Est-ce que on peut imaginer qu'un examen, ou est-ce qu'il y a des indices comme ça qu'on pourrait retrouver dans une prise de sang, en disant, toi, mon coco, il te reste pas très longtemps à vivre ou,
Non.
Un examen clinique, type défaillance d'un organe, par exemple, une protéine ou quelque chose dans le sang qu'on pourrait...
Alors il y a, pour certains organes, on peut détecter des défauts qui vont être associés à une morbidité. Maintenant, en fait, par rapport à la sénescence générale, donc vraiment à l'échelle cellulaire, le fait qu'on vieillisse, que notre aspect devient de plus en plus, de moins en moins frais, de plus en plus fripé, que les organes n'arrivent plus. C'est très, il n'y a pas de marqueur directement lié, de marqueur de vieillissement, en fait, de disant que voilà, vous allez pouvoir aller jusqu'à 80 ans. Ou, il y a trop d'événements, trop d'éléments de l'environnement qui jouent sur notre existence sur Terre, qui font que c'est impossible de prédire ça.
Alors du coup, moi je voulais revenir par rapport au cancer et aux zombies. Donc ça c'est assez rigolo, mais en fait ça voudrait surtout dire que la personne elle a un cancer, mais juste généralisé de 100% de son type cellulaire.
Ouais. Donc, en fait, je ne sais pas si c'est un cancer parce que il est quand même intègre, le zombie. Enfin, il est intègre plus ou moins, oui, quand même.
Mais aucun de ces types cellulaires ne meurt. C'est-à-dire qu'un cancer, c'est un type cellulaire qui va devenir, on va dire, une cellule folle et qui va jamais mourir. Ouais. Pour un zombie, ça voudrait dire que ce serait toutes les cellules qui seraient touchées.
Alors, un cancer, le cancer, c'est très complexe. En fait, déjà, c'est très dépendant de l'organe qui est à l'origine du cancer. Et donc, il va y avoir différents types de cancers. Par exemple, on a des cancers où on a un petit groupe de cellules souches qui vont générer des cellules. Donc, ça va être des cellules cancéreuses qui génèrent des cellules cancéreuses qui, c'est pas forcément qu'elles ne vont. Donc, soit elles vont rester, elles seront plus gaillardes, mais elles seront quand même assujetties à une mort cellulaire tôt ou tard. Sauf que leur prolifération et leur effet sur l'environnement tissulaire va être tel que l'organisme va mourir avant que elle-même meure. Donc je ne sais pas si elles sont immortelles. En culture cellulaire, là, il y a une dérive parce qu'on les cultive dans un environnement qui n'a rien à voir avec le corps. Déjà, on est sur du plastique qui est 1000 ou 100 000 fois plus dur que le tissu mou dans lequel les cellules sont. Et puis on a des milieux de culture avec 10 fois plus de sucre que ce qu'on a normalement. Enfin voilà, tout ça est très artificiel, mais ça permet de maintenir les cellules en vie. Et ça nous donne un modèle d'étude. Maintenant, c'est très loin encore du cancer comme on peut le trouver in vivo chez la personne. Après, donc le zombie, je suis pas sûr en fait. Je pense que c'est plutôt une espèce le corps est répond à une espèce de pulsion autonome, mais qui est quand même assujettie à certaines lois. Et ces lois n'ont pas vraiment encore été explorées, ou j'ai pas tous les outils.
Et j'avais une dernière question par rapport aux IPS. Du coup, moi, j'ai travaillé avec des IPS de sébocytes. Ça n'a pas été hyper une grande réussite. Et du coup, je voulais savoir à quel point les cellules étaient de nouveau natives avec des télomères intègres, parce qu'en fonction du patient duquel elles sont prélevées, sincèrement, elles répondent quand même pas pareil.
Alors, faut juste définir le sébocyte.
Ah, pardon. C'est les cellules des glandes sudoripares, voilà, des glandes de transpiration, et qui produit le sébum et qui nous fait tous les cheveux gras.
Et donc, l'idée, c'est de... Donc, si vous prenez ces cellules et que vous les faites revenir à l'état de cellules souches, elles sont pas vraiment cellules souches?
Non, la question était vraiment... À quel point vous travaillez avec, vous considérez qu'elles reviennent à un état comme chez le centenaire là, qui a repris tous ses télomères.
Il y a toute une... Alors nous, on regarde pas spécifiquement les télomères. Je pense que ça a été vraiment montré que la reprogrammation a un effet sur le côté régénération fontaine de jouvence. Maintenant, nous, donc c'est vrai que quand on prend des cellules, alors nous on le fait non pas des glandes sudoripares, mais on le fait à partir de l'urine. Qu'on trouve des cellules rénales dans l'urine, qu'on arrive à amplifier en culture au laboratoire, et on les fait devenir cellules souches. Et ensuite, on a une batterie de tests pour vérifier que ce sont bien des cellules souches qu'on puisse utiliser ensuite pour faire des cellules de foie, de cœur ou autre. Des cellules qui ne répondent pas à ces critères, on ne les utilise pas.
Du coup, moi, j'avais une question à propos du pendant de la mort, savoir le vivant. Il y a quelque chose qui m'apparaît comme à la fois évident, mais qui est peut-être un préjugé finalement. Si c'est vivant, ça va mourir. Est-ce que ça peut faire partie de la définition du vivant?
Moi, je pense que oui. En fait, ça fait partie. On fait partie d'un cycle où l'état organique, on passe par un état qui, au final, va revenir à un autre état utilisé par d'autres éléments de notre environnement, et ça continue.
Mais du coup, tout à l'heure, vous parliez de cellules immortalisées. Bon, déjà, j'ai été un peu surpris parce que j'avoue que j'en connaissais rien du tout. J'ai été aussi surpris que vous parliez de cellules immortalisées et non pas immortelles. Donc, je me suis demandé déjà, qu'est-ce que c'est que ces cellules immortalisées?
Immortalisées, c'est parce que c'est vraiment l'action de l'homme qui va chercher à les rendre immortelles. En fait, donc, par immortel, ça veut dire que on peut les garder en culture. Bon, pour l'instant, enfin, on les a pas depuis 1000 ans. Hein, on les a, mais depuis pendant de nombreuses années, beaucoup de laboratoires les ont utilisés et gardent des caractéristiques qui sont répétables d'un laboratoire, je sais pas moi, au Japon, aux États-Unis ou en France, et on aura les mêmes effets. Donc c'est d'avoir un système intègre, mais qu'on arrive à répéter. L'avantage de ça, c'est que la reproductibilité, surtout pour les expériences scientifiques. Le désavantage, c'est le fait que ce soit plus très, c'est un peu loin de la cellule normale. Et la cellule normale qu'on veut travailler avec en culture, en fait, on n'arrive pas à la garder longtemps. On la garde quelques jours et ensuite elle perd ses fonctions et c'est fini. Donc du coup, il faut avoir plusieurs série de ces cellules, et donc on a une grande variabilité, et c'est très compliqué du coup à reproduire des résultats forts dans la communauté scientifique. On y arrive pour certains aspects, mais c'est beaucoup plus stringent.
Et du coup, j'avais une dernière question, c'est sur les régénérations notamment. J'ai l'impression que nous, en tant qu'êtres humains et beaucoup d'êtres vivants qui nous entourent, on meurt parce qu'on dégénère, mais j'ai entendu parler d'êtres vivants qui ne dégénèrent pas et pourtant ils meurent. Je me demandais, est-ce que c'est seulement la dégénérescence qui nous tue, ou est-ce qu'il y a autre chose, comme par exemple, apparemment tous mes organes sont capables de se régénérer un certain nombre de fois. Est-ce qu'il y a un nombre limite à ça?
Ben, en fait, c'est lié un peu à notre métabolisme. Donc il y a des organes qui peuvent se régénérer. Donc moi, je travaille sur le foie. Le foie, si on coupe 70% du foie, au bout d'une dizaine de jours, on récupère quasiment toute la masse cellulaire du foie. Donc c'est vraiment, c'est l'organe de régénération par c'est le gold standard du truc. C'est le vieillissement, en fait, c'est en fait, nos cellules sont tributaires de l'information portée par l'ADN. L'ADN est le support de la production des protéines qui font que on maintient la cellule. La cellule va utiliser de l'oxygène et du sucre pour pouvoir vivre, et l'utilisation de ces éléments va générer ce qu'on appelle des réactifs oxydants. Donc c'est des éléments très instables qui vont ensuite interagir avec des protéines ou des lipides, et ça va modifier ces protéines, ces lipides, et ça va avoir un effet à la longue sur l'ADN lui-même, qui va perdre de son intégrité et qui ne va plus pouvoir assurer son rôle de messager ou de porteur d'information, où l'information va être erronée. Et au bout d'un moment, ça va en fait induire des mutations qui peuvent soit arriver sur la survenue de cancer si c'est pas contrôlé, ou l'apoptose si c'est contrôlé et qu'on se débarrasse de la cellule.
Du coup, j'ai juste une dernière question qui, je pensais, toute simple pour vous. Quand je vais mourir, est-ce que absolument tout ce qui compose mon corps va mourir?
Alors, c'est une question intéressante. En fait, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui compose notre corps? Donc, si on vient sur ce que je disais avant avec la fécondation, le spermatozoïde, l'ovocyte, qui vont générer une cellule qui va donner l'embryon, donc ça, c'est notre nous qui contient l'ADN de nos parents. Mais nous, en fait, on n'est pas que ça. On est aussi une espèce d'écosystème avec énormément de bactéries et de virus qui sont présents donc nous, on a la flore cutanée, la flore intestinale, et ça, tout ça fait partie de nous et ça participe à notre vie. On a plus de bactéries sur nous ou dans nous que de cellules. En fait, on est quasiment un vecteur de bactéries, on est un vaisseau à bactéries. Et du coup, quand on meurt, eh ben, en fait, ces bactéries, elles ne meurent pas. Elles continuent de vivre, elles se nourrissent de notre corps. Ensuite, le système de ce qu'on appelle de putréfaction, où on a la digestion des cellules en elles-mêmes et puis des organes, va modifier l'environnement. Donc un type spécifique de bactérie va prendre le dessus par rapport à la communauté bactérienne qui nous compose, et ensuite ça va être un cycle qui va permettre la décomposition de tous les éléments, et normalement tout ce qui nous compose en dehors des eaux va être complètement dégradé.
Bonjour, c'est ici. Dans le cadre de mort non soudaine, donc plutôt lente, qu'on peut par exemple accompagner en soins palliatifs, est-ce que les cellules du corps envoient dans les derniers temps de leur vie une sorte de message qui peut être peut-être hormonal ou nerveux au cerveau, qui indiquerait que la mort est imminente, puisqu'on peut observer par exemple des comportements nerveux qui tendraient à penser que la personne sent que la mort arrive?
Alors là, c'est difficile à dire. En fait, je pense qu'il y a vraiment, à mon avis, il y a vraiment le côté psychosomatique qui doit aussi rentrer en jeu dans le processus de fin de vie. Après, quel est l'impact? Enfin, en quoi le corps réagit à ça et informe d'autres éléments du corps que la fin est proche? Je n'ai aucune idée.
Bonjour. Je souhaitais commencer par réagir à deux questions qui avaient été posées. Celle qui était sur l'expérience de mort imminente, les EMI, de ce que j'en ai lu, moi, ça correspondait plutôt à une hypoxie. Du coup, comme au jeu qu'on faisait, quand j'étais enfant, on appelait ça le rêve indien, le jeu du foulard. Maintenant, voilà, il suffit de se juguler un petit peu, et puis voilà, on arrive un petit peu à ça. Une autre question qui avait été évoquée, qui était sur le sang, je crois que c'est seulement à l'état de recherche, mais on appelle le sang aussi l'élixir de vie, et le fait de faire une sorte de transfusion de sang de souris jeunes dans des souris qui sont plus âgées fait que ces souris plus âgées sont plus mobiles, plus actives, etc., et du coup vivent plus longtemps. Donc du coup je ne propose pas forcément de pomper le sang des jeunes ici, de les transférer ou de se le garder, mais en tout cas il y a des recherches qui sont menées en ce sens. Et la question que je souhaitais vous poser, qui fait également écho à ce qui vient d'être dit, c'est qu'il me semble, si je ne m'abuse, qu'il y a des gènes qui s'activent uniquement après notre mort. Dans les heures, voire les jours qui suivent notre mort, il y a des gènes qui s'activent et qui correspondraient à des gènes qui sont déjà présents et activés lors de l'ontogénèse. Donc, comme si le corps souhaitait nous faire revivre, ou certaines parties du corps. Voilà, est-ce que vous pouvez développer ou préciser un petit peu la chose dessus?
Non, ça, parce que une fois qu'on rentre dans un processus d'apoptose, alors l'apoptose, comme je l'ai décrit avant, c'est quelque chose de contrôlé et qui est même nécessaire à la vie ou même au développement. Par exemple, c'est aussi un élément qu'on avait évoqué plus tôt dans l'après-midi. Pendant le développement de la main, en fait, on a une espèce de main palmée, et ensuite on a une disparition des cellules qui permet de la digitation. Et donc ça se fait par apoptose. Alors on dit à la cellule, ok, toi tu vas rentrer en apoptose de façon contrôlée et on fait pas de dégâts autour. Quand on meurt, en fait, il n'y a plus d'apoptose. La première chose qui se passe quand on meurt, c'est donc la mort physique avec l'arrêt du cœur, c'est le fait qu'on n'ait plus d'oxygène au niveau des cellules. Et quand on n'a plus d'oxygène, les cellules, elles, ont besoin d'énergie pour pouvoir vivre. Et l'énergie, c'est un élément en particulier dans les cellules qu'on appelle l'ATP. Et l'ATP nécessite de l'oxygène pour pouvoir être formé. Ça, c'est formé par les mitochondries. S'il n'y a pas d'oxygène, les cellules vont rentrer en fermentation. Elles ne vont plus respirer avec l'oxygène, mais elles vont fermenter et elles vont commencer à générer énormément de réactifs oxydants. Et ça va avoir un effet délétère complet sur les autres protéines de la cellule et tout l'environnement cellulaire. Et là, je ne sais pas en fait à quel point l'ADN peut produire des, enfin, permettre l'activation de gènes appliqués dans l'autogénèse. Personnellement, je ne vois pas.
Bonsoir. Oui. Je voudrais revenir rapidement sur la dégénérescence du corps et la décomposition plutôt.
Oui. Oui.
Je suis tombée sur un article une fois qui expliquait que les cimetières étaient de plus en plus remplis parce que les corps ne se décomposaient pas assez bien ou assez vite à cause des conservateurs ou quelque chose comme ça. Je voudrais votre avis là-dessus.
Alors ça, c'est... Oui. Il y a un effet d'alimentation sur notre écosystème, donc qui compose des cellules et des bactéries, et l'effet que ça va avoir sur les éléments autour. Donc, par exemple, quand on meurt, donc la première chose qu'on fait, c'est être à terre, donc être en contact avec les éléments qui sont au sol, les végétaux, nos produits. Donc, si on n'est pas enterré, enfin, je veux dire, si on n'est pas dans une pierre tombale, qu'on est, disons, dans la nature, dans la forêt, le produit de décomposition va servir de nutriment pour les éléments autour. D'autres éléments vont être néfastes pour la pousse de plantes, par exemple. Et tout ça, en fait, va d'une façon cohérente et harmonieuse participer à la dégradation du corps. Il se trouve qu'il y a peut-être des éléments comme, par exemple, des antibiotiques ou d'autres éléments qui peuvent interférer avec la balance dans cet écosystème et, du coup, sur l'enchaînement normal des réactions de décomposition. Mais je pense qu'il faudrait quand même des doses de façon aiguë, juste au moment de la mort, très fortes pour que ça ait un impact sur ce type de mécanisme qui est tellement massif, qui implique tellement d'éléments. Je ne sais pas trop en fait à quel point les conservateurs... On sait que ça peut avoir des effets, mais pas au point où... par exemple, quand vous dites qu'il y a un problème donc, de place et que les corps se décomposent plus lentement, c'est à quel niveau, enfin, de combien de temps, l'échelle de temps?
Je ne me souviens plus de ça, forcément. Mais c'était... Concrètement, c'est expliqué que de plus en plus de cimetières en Occident avaient de plus en plus de mal à libérer des places parce que les corps ne se décomposaient plus aussi vite que 50 ans en arrière.
Après, il y a aussi, j'imagine, les façons dont les corps sont enterrés. Et, voilà, ça c'est... Oui, enfin, oui, 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 si, si. Oui, mais je ne sais pas, en fait. Ouais, moi, je n'ai pas personnellement... peut-être qu'il y a un effet, mais je ne sais pas à quel point l'effet peut ralentir, à quel niveau ça... comment dire ça? À quelle intensité ça peut ralentir la décomposition du corps? Alors, je sais, par exemple, sur... si on va au McDo, ce qui est ajouté dans les pâtis, dans les steaks, il y a un effet certain sur le ralentissement de la digestion. Ça, c'est clair. Maintenant, après, est-ce que ça vraiment... Est-ce que c'est stocké suffisamment dans les cellules pour avoir un effet sur la décomposition plus tard? Je ne sais pas. Donc là, il y a une question depuis avant. Oui.
Merci. Avant qu'il meure, je ne sais pas si l'article que vous avez lu faisait référence à ça, mais en fait... les soins de conservation qui sont apportés aux personnes mortes avant qu'elles meurent peuvent effectivement avoir un effet sur ensuite comment elles se décomposent. Et c'est pour ça que certaines personnes... il y a tout un phénomène de mort écologique avec des personnes qui ne veulent pas recevoir ces soins-là parce que aussi, du coup, ça a des effets sur la terre ensuite, une fois qu'ils sont enterrés. Et le fait, après, de vouloir être enterré dans par exemple, des cercueils en carton qui n'ont pas, du coup, de produits sur... les cercueils normaux sont traités avec des produits et, du coup, cercueil en carton, en fait, c'est ça. Et je ne sais pas si l'article que vous lisiez faisait référence à ça, mais les soins de conservation qui sont apportés aux morts juste avant, au-delà de ce qu'on consomme de notre vivant, peuvent, je pense, avoir un effet sur la vitesse à laquelle on se décompose. Et c'est un peu ce qu'on attend de ces soins-là, justement, pour pouvoir conserver le mort un peu plus longtemps, pour que la famille ait le temps pour l'enterrement, le deuil, etc. Et donc je pense que ça peut avoir un effet après.
Peut-être prendre une dernière question.
Oui. Allô. En fait, tout tout à l'heure, vous avez parlé de mort cérébrale. Est-ce que c'est possible de greffer un cerveau?
Alors, il y a un chercheur italien, je crois, qui s'est mis comme challenge de faire ça. En l'état actuel des choses, bon, je dirais que non. En fait, il y a trop de greffer. Notre cerveau est lié au tronc cérébral, à la colonne vertébrale et à de multiples liens avec tout le système nerveux périphérique, plus le système nerveux entérique. Et de reconstituer toutes ces interactions et en se disant qu'elles sont exactement identiques d'un corps à un autre, je pense que c'est un peu du fantasme. Et je ne pense pas que ce soit possible.
J'avais entendu parler aussi de ce chercheur italien, mais avant j'avais découvert qu'il y avait un chercheur russe. Il avait réussi à greffer une deuxième tête à un chien et les deux têtes fonctionnaient parfaitement. Donc je pense qu'il peut, c'est peut-être possible, non? Mais c'est peut-être pas éthique. Hein.
Ça, faudrait voir la publication. Je sais pas. Je doute que ce soit une réalité, mais à voir. Bon, bah, il est quasiment 6 heures. Donc, merci d'avoir assisté à cet atterro surprise. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de converser avec vous autour d'un sujet qui est pas facile. Et puis, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Merci et bonne continuation.